chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Au Hachem, la dernière fois, on avait bien rigolé, comme il a dit tout à l'heure. C'était magnifique. J'ai repensé à vous pendant la nuit, parfois, et tout ça. Je me disais, où ils sont passés, tous ces amis, là, ils sont magnifiques, et tout ça. Maintenant que je vous retrouve, vous imaginez pas la joie que j'ai de vous voir. Ça me fait très plaisir. Je suis très content, et au Hachem, vous m'avez beaucoup manqué. J'ai vu beaucoup de faciès, mais je pense que vous êtes dans le peloton de tête des numéros 1, des meilleurs. Comme vous savez, voilà, on vient de sortir de la fête de Pessah. On va parler un petit peu, on va faire un petit peu le point, parce que la dernière fois, t'étais quand même assez speed dans le timing et tout ça. On a vraiment avancé très rapidement dans le shiur. Je voudrais reprendre peut-être quelques points et en développer, parce que vraiment, c'est un shiur très yesodi, hein. Des bases fondamentales qu'on avait parlé la dernière fois. Il y a des fois, on va tellement vite qu'on peut passer à côté de l'essentiel. Et comme vous savez, il y en a souvent, ils se disent, c'est ma'aboulim là. Ils disent, ouais, la Torah c'est quoi et tout ça, vous tournez en rond et tout ça, tous les ans vous faites la même chose, vous répétez toujours les mêmes choses et tout ça. Vous faites Bereshit, après vous faites Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et vous revenez. J'avais entendu d'un des grands Talmidei Chachamim de France, Rav Ben Ishou, que vous connaissez, qui est... Il faut être polytechnicien pour dire ce qu'il a dit. Il dit, quand on tourne en rond, il y a deux façons de tourner en rond. Il y en a qui sont en train de tourner en rond et qui restent sur place. Il y en a qui tournent en rond et qui montent à la manière d'une hélice. Et ils s'élèvent. Il dit, c'est ça la différence entre les gens qui croient, quoi, on a déjà écouté ces shiurim, on a déjà écouté ces paroles, on a déjà écouté ces choses-là. Mais Rabotai, si jamais quelqu'un, il ancre profondément les yesodot, les bases fondamentales de la Torah et qu'il les travaille, il dit, vous le voyez, il est toujours en train d'étudier la même chose. Mais chaque fois qu'il est en train d'étudier, il se retrouve à des madrigotes, à des dimensions spirituelles qui montent et qui s'élèvent et il se rapproche énormément. Et pour commencer ce shiur, je voudrais rendre hommage à Kadosh Baruch Hu, Itale Shem Olad, et lui demander, Bezrat Hashem, de formuler une prière devant lui, que ça soit sa volonté que je puisse être méritant de vous éclairer les yeux et le cœur, parce que moi je vous dis, je suis que de la poussière et de la cendre. Moi je sais rien du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'inspire, c'est lui qui place les mots dans ma bouche pour essayer d'éclairer vos cœurs et vos yeux. Et Bezrat Hashem, j'espère que par le mérite de cette assemblée de patrons que vous êtes, Akadosh Baruch Hu va me donner un chiur de patron, parce que vous sachez que moi je suis rien et vous êtes les grands patrons. Alors, et je voudrais aussi le remercier du fond du cœur, parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous savez, on traverse un moment de très très difficile dans le clan Israël. Il y a des catastrophes très dures et tout ça. On avait parlé de tout ce qui était arrivé à tous les gens. Et bon, ou Hachem, il est allé chez Moulad. Moi, je vous dis, je me suis pas épargné pendant ces vacances. J'ai circulé à la manière d'un pigeon voyageur. J'ai circulé dans tout le pays et tout ça. On n'avait plus de force et tout. C'était pas facile. Mais chaque shiurim qu'on a fait, on a vu des grands miracles juste après. Vous savez, tous les gens qui étaient malades et tout ça, il y en a beaucoup qui ont eu des miracles incroyables. Il y en a un qui est tombé de 30 mètres de haut, je vous avais dit à Paris. Il s'est relevé, il est sain et sauf, Rabotai. C'est par le sroud de la Torah de chaque qu'on a étudié, qu'il y a des gens qui ont pris sur eux des tfilot, qui ont pris du chizouk sur eux, qui ont pris de la tsniout. J'ai entendu Raphaël, il m'a dit, il y a le lendemain du shiur qu'on a fait, il y en a un qui est parti, il a fait la tfila avec le talit sur la tête, il a fait des tfilot razakot, il a senti que son cœur, il l'a amené au Beit HaMidrash pour faire la prière. Rabotai, celui-là, il a peut-être sauvé une vie. Il a peut-être contribué à sauver cet homme-là qui était entre la vie et la mort, et il s'est porté solidaire de lui. Il a répondu « Ineni ». Il n'est pas resté là-bas avec Jacqueline devant MSN Messenger. « Jacqueline, tu vas bien être seul ?» Ben, j'en ai. Le gars, il est resté comme ça, non assistance à personne en danger. Il est resté le sarcophage dans sa chambre là-bas. Ou « Halak Fitiam Soua » sur la plage, vous vous rappelez tout ça. Il dit, le gars, il est resté, il s'est donné comme un lion, pour, il s'est levé. Il a fait sortir l'ours qui était en lui, de cet ours polaire qui voulait hiberner. Il est sorti de son lit, il est allé à la tfila, il a prié à Wotaï. Une petite tfila, elle peut sortir quelqu'un de la pénombre. J'ai entendu aussi que notre ami Raphaël Moshe Ben Brigitte Freha, il va un peu mieux, Baruch Hashem. Il a commencé aussi à se remettre. Et encore d'autres amis qui étaient dans des situations difficiles. Wotaï, c'est des miracles. Quelqu'un qui tombe de 30 mètres de haut, est-ce qu'il peut se relever d'après le Teva? Les médecins, ils pouvaient pas, il n'est pas cher de sa peau, il est tombé du 7e étage ou du 8e étage, il y a une balustrade en verre qui s'est écrasée. Rabotai, comment c'est possible? Et là, Rabotai, c'est Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, c'est le médecin du monde. Et nous, on est des infirmiers, Rabotai, on est des infirmiers. Chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, qu'on se renforce dans la Torah, dans les mitzvot, on amène des tipoulim, des remèdes à ces gens-là. On amène des remèdes, on leur donne des remèdes extraordinaires. Comment c'est beau de se sentir utile. Comment c'est beau de sentir qu'on peut faire rayonner le visage de nos frères, leur redonner le goût à la vie, les faire sortir de la pénombre. Rabotai, il n'y a que dans le Ham Israël que c'est comme ça. Quand tu as un frère qui souffre là-bas, à Ouagadougou, là-bas, la capitale du Burkina Faso, je connais la géographie, j'ai étudié moi aussi. Ils veulent sortir là-bas, celui-là, il est triste et tout ça, il est là, et toi tu viens, tu fais une tuila pour lui, tu le sors de là. Rabotai, je ne sais pas si vous avez pris conscience de cette grande dimension du Kol Israël Arevim Zelazé. Qu'on est tous interdépendants, on est tous liés par le même destin, on peut tous s'entraider, on peut tous faire cette guerre contre le Yetzer Hara et ça peut sauver des gens, ça peut sauver des Neshamot qui sont de l'autre côté du globe. J'avais entendu une fois, il y avait une femme, elle était complètement perchée, tout ça. C'était pas au programme, mais comme vous êtes magnifique, je vous raconte cette histoire. On sait jamais. Ça peut faire du bien. Vous comprenez? Il y avait une femme là-bas. Elle était complètement perchée, tout ça. Elle vivait en Amazonie avec les bols de riz et les siens, tout ça, toutes sortes de gens et tout. Elle était en train de manger des couleuvres et des vipères et toutes sortes de serpents et de choses et tout ça, très bizarres et tout, des mahalotes assourotes, très graves et tout, des nourritures interdites. Et j'insiste parce qu'on vient de faire la paracha de Shemini, vous avez dans le livre des quelques gouttes de lumière pour l'éternité un shiur sur la cacheroute qui explique l'aspect fondamental de la cacheroute sur l'ouverture du cœur et notre réceptivité à la lumière divine. Quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, je vous assure, il a une approche de la Torah qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante. Et ce qu'on lui dit, voilà, il est ébloui dans un chiour, il a envie de décrocher la lune, il a envie de se battre et tout ça. Haïl Gebre Selassie, vous connaissez le coureur d'Ethiopie, là-bas, le triple champion olympique et tout ça. C'est un patron celui-là. Il a envie de courir quand il sort du chiour, le gars il a envie de courir et de faire des mitzvot, de faire la Torah. Le lendemain là-bas, il a attrapé la pizza de Pizza Pino là-bas avec le fromage, avec la présure de chèvre dedans, non cachère. Il entame, il n'a plus de ratson, il n'a plus de force pour servir Hachem. Comment ça se fait? Il dit parce que son cœur il s'est fermé à la lumière d'Hachem. Il dit si jamais il fait attention à ce qui rentre à l'intérieur de lui, son cœur il sera pur, il pourra être réceptif à la lumière de la Torah. En tout cas, force fut de constater que cette femme-là, elle ne mangeait pas du tout cachère, elle était complètement perchée, elle était complètement assimilée et tout ça. Et un jour, Pitam, en plein milieu de cette Amazonie là-bas, cette femme, il y a une lumière qui s'est allumée à l'intérieur d'elle, elle s'est tout de suite, elle était en train de manger quelque chose de non caché, elle s'est tout de suite souvenue de ce qu'elle était quand elle était jeune, et de ça qu'elle avait fait quelques repas de shabbatique et qu'elle avait mangé caché. Et là, à ce moment-là, elle est revenue bitchouva, elle a dit, c'est pas possible, je viens d'un peuple saint, je viens du peuple d'Israël, l'âme Israël et tout ça. Rabotai, comment ça se fait que cette femme-là, elle s'est réveillée? Ils se sont demandés. Un peu plus tard, il y avait une femme qui était un peu religieuse dans sa famille. Elle est venue et tout ça, et elle est venue la voir, elle est venue lui rendre visite. Elle a vu comment ça, elle a commencé à faire la Torah, un peu l'autre et tout. Elle me dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que tu sois revenu bitchouva alors que t'as buté avec les singes et les guenons là-bas? Et tout ça, comment ça se fait que toi tu te sois renforcé dans la Torah? Qu'est-ce que c'est une chose pareille? Alors après, elle s'est souvenue, cette femme-là, qui était de sa famille, que quand elle était à la Dvila, elle était allée faire la Dvila pour faire le mikveh. Ce soir-là, elle est rentrée dans l'eau et elle a fait une Tvila pour elle. Rabotai, elle a fait une tefila pour elle, elle a dit Ribono Shalolam, elle s'est souvenue de cette cousine là-bas qui était complètement perchée. Elle a dit Ribono Shalolam, que celle-là là-bas, Bezrat Hashem, Hashem envoie-lui les orotes, envoie-lui la lumière pour qu'elle revienne bitchouva chez les mains. Rabotai, au même moment, l'autre, elle a eu un flash là-bas, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et ils ont fait la connexion, ils ont compris que cette pensée fervente, et cette pensée de Gdusha et de Tara qui étaient dans les eaux du Migvé, qui sont purificatrices, c'était celle qui lui avait permis à l'autre de sortir de l'obscurité vers la lumière et de recevoir cette Kedusha Atsuma. Rabotai, une pensée pour nos frères, une pensée, une prière, un mot, ça peut sortir quelqu'un d'une situation terrible. Combien on doit se réjouir d'être le Ham Israël. Rabotai, vous êtes important, vous êtes Hashuvim, vous êtes les Bnei Melachim, les enfants d'Hashem Yitbarach. Rabotai, on est le peuple d'Akadash Baruch Hu, on est les plus grands du monde, on est les plus importants du monde. Il faut prendre conscience de ça. Toujours les gars, le Yisera, il veut nous faire passer pour des chèvres et tout ça. Ils te disent, c'est pas grave, toi, et ça, t'es pas important, qu'est-ce que tu vas devenir? On n'a pas besoin de ta petite tuila et ça, avec ton jean diesel, avec tes tongs Havanaes et tout ça. Je connais les tongs Havanaes avec le Brésil et tout ça. À Ibiza, vous connaissez. Avec la cerise de Ibiza et tout ça. Je connais le Pacha et tout ça. Vous ne croyez pas que je suis un ancien? Vous comprenez les gars, le gars il connaît tout ça, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle vaut ma tefila, qu'est-ce que je suis moi, Habibi, t'es le Ben Israël, le fils d'Akadosh Baruch Hu, le plus important du monde, ta tefila elle est chashuva, tu peux changer le monde avec une parole, avec une itnagout, avec un bon comportement, avec une bonne mida que tu travailles, le monde il repose sur nous mes frères, On n'imagine pas une chose pareille. Et toi, tu fais une bonne action. Tu peux faire un kiddush Hashem extraordinaire, qu'il y a un gars, il va te voir. Il va se dire, regarde lui, il est allé étudier un cours de Torah. Regarde comment il s'est renforcé. Regarde comment il est meilleur avec sa famille, avec ses parents. Regarde comment il est plus humble qu'avant. Regarde comment il considère chacun. Regarde comment il fait du chesed. Alors qu'avant, il était devant 30 millions d'amis et tout ça, avec Mabrouk, le chien fou et tout ça. Il dit, le gars, il reste toute la journée là-bas, Fahal Mabrouk et tout ça, il reste comme ça. Lui, il reste avec Mabrouk à côté de lui sur son canapé, il s'allongeait. Maintenant, le gars, il commence à se battre, il va dans les maisons de retraite, il essaye d'aider les personnes âgées, il va quelqu'un, il est dans un hôpital, il vient lui apporter du réconfort, lui dire des paroles d'Emouna et de Bitachon. Rabotai, il se rend utile. C'est le plus grand et le plus puissant du monde. Il a fait des bonnes actions. Les gens, ils le voient comment il est devenu grâce à la Torah et t'a ramené une neshama à la Torah. En vous taille le Rambam, dans Ilkhot Teshuvah, il nous dit le Rambam, mes chers frères, que dans Ilkhot Tzedaka, la Tzedaka la plus élevée, la plus grande qui soit dans la vie d'un homme, c'est de ramener une neshama à la Torah. T'imagines pas ce que t'as fait quand t'as ramené une neshama à la Torah. Et comme ils disent les Chachamim dans Pirkei Avot qu'on a lu cette semaine, et mort mead ve'aserbe ve'eve mekabel kol echad ve'sever panim yafot. Parle peu et agit beaucoup et reçoit chacun avec affabilité. Parce que les tzadikim ils parlent peu, ils agissent beaucoup, et les rechaim parlent beaucoup, ils agissent peu. On t'a pas demandé d'aller faire des grands discours et de faire des là-bas de te mettre avec la cape là-bas, fhal le moine qui veut faire du prosélytisme et tout ça. En plus dans le pays de la laïcité, tout ça c'est pas bien vu et tout, parce qu'ils sont un peu la religion de la laïcité c'est la plus dangereuse. Rabotai c'est une religion aussi, c'est celle qui conteste toutes les religions et tout ça. Ils croient que c'est sous couvert de neutralité, mais faut faire attention à ça. Dis, on t'a pas demandé d'aller faire et tout ça des prêches. Sois un exemple pour tes frères. Comporte-toi et sois une lumière pour ton entourage. Montre-leur ce que c'est le comportement d'un Ben Torah, d'un Ben Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. T'es le fils d'Hachem, Habibi. T'es l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Tu t'imagines ce poste que t'as, cette responsabilité qui est sur ton dos. T'es le fils d'Hachem Yitbarach et toi, tu es la lumière et le reflet de la Torah dans le monde entier. T'as le mérite d'étudier de la Torah. T'as le mérite d'étudier des shiurim alors que t'as des gens qui sont perchés, ils n'ont jamais entendu un shiur de leur vie. Mais Rabotai, on n'a pas d'excuses, on doit être des lumières, on doit renforcer des gens. Moi je vous dis, chaque fois qu'on a parlé avec des gens, on a vu les répercussions que ça a pu avoir. Parfois on ne le voit pas directement, mais on le voit avec quelques années. Voilà, j'étais à la Beth Knesset ici à Marseille, et je vois un, il me dit, tu vas passer chez moi au magasin et tout ça pour m'amener, tu vas venir réquisitionner les roubles pour le livre et tout. Je lui ai dit, pas de problème, et ça, je vais venir et tout. Il m'a dit, ah, t'as toujours ton magasin et tout. Il m'a dit, oui. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ce magasin et tout ça. Il m'a dit, ça y est, maintenant je suis fermé le Shabbat. Il m'a dit, ah, c'est magnifique et tout ça. Je lui ai dit, je savais pas que t'avais ce problème. Il m'a dit, tu te rappelles pas, on avait parlé de ça. On avait parlé une fois, tu m'avais fait un cours sur la bitachon et la emouna et tout ça, qu'il faut avoir la confiance que c'est Hachem qui nous donne la parnassa. Et depuis ce jour-là, le lendemain, j'ai décidé de fermer le Shabbat. En même temps, moi, vous pensez que j'étais à quelques millimètres de m'imaginer que j'allais faire fermer un magasin à quelqu'un. Qui je suis, moi? Je suis rien. Je vous ai dit que je suis de la poussière. Mais t'es un chaliard d'Hachem. Toi, tu fais rien, tu pries pour ton frère qui n'a pas compris. Tu essayes de lui donner de tout ton cœur ce que tu as compris, toi, et ce que tu as reçu de tes maîtres. Et tu peux l'aider, tu peux lui sauver sa vie à lui, à ses enfants. Son Shabbat, il ressemble à un Shabbat. Ses enfants, ils vont dans le Derech HaTorah. Ils sont contents d'aller et de marcher dans la bonne direction. Rabotai, t'as sauvé un gars. Tu lui as parlé quelques heures de ton temps. Tu lui as consacré un peu de temps. Tu l'as sauvé, le gars. T'as sauvé sa famille, t'as sauvé ses enfants. Ils sont maintenant dans des bonnes écoles. Ils avancent. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai rien fait, Rabotai. Je crois que j'ai changé quelqu'un. J'ai fait quelque chose, moi. Il dit, je suis un fou si je pense ça. Qui je suis pour changer quelqu'un? Je suis un manipulateur. Je peux faire quelque chose, moi. Qui je suis? Il dit, ça révèle du miracle. T'as fait des tfilotes à Kadosh Baruch Hu, t'as été le tuyau d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il ne peut pas se dire, je suis impuissant et qui je suis, je n'ai pas étudié la Torah, je ne connais rien et tout ça. Ce que tu connais, si tu parles de tout ton cœur, ça rentre dans le cœur de tes frères. Il dit, pourquoi vous croyez qu'on est amis tous? Moi, vous ne me connaissez pas la première fois, vous m'avez adopté moi aussi. Comment c'est possible tout ça? Vous ne m'avez jamais vu et tout ça. Moi, je vous aime depuis le premier jour que je vous ai vu. Comment c'est possible? Je vous fais la déclaration d'amour et tout ça. Comme dans Les Feux de l'amour, mais ça, sauf que ce n'est pas du cinéma, c'est la vérité, je vous aime très fort. Comment c'est possible une chose pareille avec, comment il s'appelle, Victor Newman et les siens? Je le connais celui-là. Jack Abbott, vous le connaissez? Moi aussi je regardais à l'époque tout ça, quand j'étais frêle la momie devant moi de la télé comme ça, je dormais tout ça. Et donc tu comprends, tu vois, comment ça se fait qu'on est proche comme ça, comment ça se fait que ça passe le courant entre nous? Parce qu'on se parle de tout le cœur, et ce qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Toi aussi t'as un cœur taor, t'es un Ben Israël, t'as l'étincelle divine en toi. Habibi, tu sais ce que c'est l'étincelle divine? Cette étincelle divine, elle peut raviver un mort. Elle peut raviver un gars qui est par terre, comme ça tu peux le relever, tu peux lui faire triat ametim. Le gars, il est mort spirituellement. Parfois, il me demande, moi les gens, ils me demandent, mais comment c'est sûr que toi, tu vas comme ça? Je vous allais raconter l'histoire de mon enfant et tout ça, comment il est mignon et tout ça. Je vais vous amener le voir après, vous allez vraiment comprendre qui c'est, ça, il est trop mignon. quand je l'abandonne, tout ça, je vais commencer à tourner pour aller faire les shurim. Il me manque trop, il est trop mignon, j'ai envie de faire le rugby avec lui. Je veux le prendre dans mes bras, il me manque et tout. Il galope là-bas dans la maison. Il a 10 mois et tout ça, il a une bouille magnifique. Et ma femme aussi, et vous, c'est ma femme et tout ça. Je peux pas trop vous en dire parce qu'on est entre nous, mais vous comprenez quoi. Bon, elle me manque ma femme et tout. Moi je me prive pendant les vacances, je circule et tout. On avait demandé à une femme qui s'appelle Sarah Schneider. C'était une femme qui a créé les séminaires. Cette femme-là, on lui a demandé comment elle a été capable pendant la guerre. C'était pendant les guerres mondiales. Ils ont réuni des gens et ils ont commencé à étudier la Torah dans une pièce qui est grande comme cette pièce de théâtre là-bas, enfin, d'ici à là. Il y avait à peu près une trentaine de femmes là-bas dans ce truc-là. Ils dormaient là-bas, ils étudiaient là-bas, ils se lavaient là-bas, ils mangeaient là-bas, ils faisaient tout là-bas, ils faisaient la tefila là-bas, dans ce petit périmètre là-bas. Et rabotaille, pendant que les autres, ils essayaient de dormir dans le petit périmètre qu'ils avaient de ça. En plus, il faisait froid, donc chacun, il se réchauffait les uns avec les autres, la chaleur humaine et tout ça, comme on l'appelle. N'oubliez pas de me donner vos mails, comme ça je reste en contact avec vous, parce que sinon ça ne va pas aller. Vous écrivez les mails, même pour moi, et tout ça, ne m'oubliez pas. I love you, man. Yes. Je parle anglais parce que j'étais à Londres avant-hier, et tout ça, donc je commence à m'habituer un peu. Alors vous comprenez, la femme, ils étaient là-bas dans ce périmètre, là-bas. Voilà, ils sont là-bas, toute une équipe. Et pendant que l'autre est en train de dormir la nuit, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle écrivait des manuels pour pouvoir préparer les directrices des séminaires qui allaient avoir après la guerre pour reconstruire le monde de Torah qu'ils avaient voulu réduire à cendres dans les fours crématoires. Ils avaient voulu effacer la Torah, Rabota. Ils ont voulu effacer la Torah, c'était ça la finalité qu'ils avaient. Effacer la Torah, parce que la Torah c'est la conscience dans le monde. Hitler, il a dit: je pardonnerai jamais au peuple juif pour trois choses. Une de ces trois choses, c'est que c'est un peuple qui a amené la conscience dans le monde. Jusqu'à ce que les Israël ils arrivent, on pouvait tuer des gens impunément sans se poser des problèmes de conscience, se demander mais est-ce que c'est bien moral, est-ce que c'est bien, et tout ça. Maintenant que les Israël sont arrivés avec leur Yetzer HaTov et leur Yetzer HaRa, et avec la conception du Emet et du Sheker, et l'éthique qu'ils ont tracée dans le monde, ils nous ont posé des problèmes de conscience. Ils ont voulu éradiquer, effacer tout ça, Rabotaï, mais on a survécu grâce à ces gens extraordinaires. Et quand ils ont demandé comment elle avait la force la nuit d'écrire ses manuels pour pouvoir transmettre la Torah et les mitzvot et les directions de la reconstruction du peuple juif spirituellement, elle leur a dit: imaginez-vous, mes chers amis, que vous êtes en train de passer là-bas à Plan de Cuc. Vous connaissez cet endroit là-bas, Plan de Cuc. C'est un endroit à côté d'ici. Il fait moins 40 degrés pendant... Enfin, c'est, imaginons, parce que je sais que ça ne fait pas très cette température. Mais c'est pendant plein hiver et tout ça. C'est, il fait très très froid là-bas. Et là-bas, vous voyez un petit enfant du Ham Israël, ou même des peuples de nations, qui est sans habit, qui est meurtri par le froid, il tremble comme une feuille morte. Rabotaï, est-ce que cet enfant, vous n'allez pas le recueillir pour le réchauffer, pour lui transmettre de la chaleur? Vous n'allez pas essayer de le prendre dans vos bras pour le consoler, pour lui amener un petit peu de chaleur et pour le faire revivre? Il dit, c'est sûr que tout le monde serait touché par ça. Et quand même une personne n'aurait pas dormi depuis plusieurs jours, elle s'arrêterait sur son chemin pour recueillir cette petite neshama qui est en train de trembler comme une feuille. Et la rabbanite, elle a dit, Sarah Schneider, elle a dit, cette rabbanite, la rabotaï, elle a dit, si déjà je dois m'émouvoir devant un petit corps meurtri qui n'a pas d'habit, qu'on sait que cet habit-là, c'est que pour l'Olam Hazeh. Il lui dit, quand je vois des frères à moi et des sœurs à moi du Ham Israël qui sont nus spirituellement, qui n'ont pas ces habits qui pourront leur permettre de se présenter au jugement et de pouvoir vivre éternellement grâce à ça. Il dit, est-ce que je ne dois pas m'investir pour pouvoir les réchauffer, pour pouvoir leur transmettre cette chaleur, pour pouvoir leur transmettre ces vêtements de la Torah et des mitzvot qui les accompagneront pour l'éternité? Il dit, on est capable à ce moment-là de trouver des forces surnaturelles. On est capable de passer outre toutes les contingences matérielles et les difficultés qu'on a et les problèmes que chacun peut avoir. Et il a envie de se détendre ou il a envie de se reposer, mais il n'y a pas de repos à Botaï. Il n'est le Yanou Veloïchan, Shomer Israël, Hachem, il ne se repose pas, nous non plus, on ne doit pas se reposer, on doit s'investir pour nos frères du Ham Israël. C'est une question de survie. On est en train de vivre la dernière guerre à Botaï, c'est la guerre de la fin des temps. Cette guerre de la fin des temps, elle tourne autour de la Emouna. Et après cette petite introduction, riche en émotions, je vais vous transmettre le chiour du jour. Ça fait plaisir. Après une petite lichette d'eau et un petit rigolade intempestif et tout ça, de la population et tout ça, et l'accueil des nouvelles populations qui ne savent plus où s'asseoir tellement la salle est comble, Baruch HaShem, ça fait plaisir. Bientôt on va louer le stade Vélodrome pour faire les chiourim là-bas. On va aller à Madison Square Garden, Maine. On se dirige vers la guerre de la fin des temps. C'est la dernière guerre qu'on va devoir mener. Cette guerre, il va falloir la mener de tout notre cœur. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, les Bnei Israël, à l'inverse des peuples des nations, c'est marqué dans le Chumash. On nous a dit une voie éternelle pour pouvoir suivre le combat et le conflit. Ce combat, il s'appelle Akol Kol Yaakov Ayadaim Yedesav. Les mains, c'est les mains de Esav, mais la voix, c'est la voix de Yaakov. Mes chers frères, ma chère famille, sachez que on est les enfants d'Hachem Yitbarach. Et nous, notre façon de combattre contre le monde, c'est un combat pacifique. C'est un combat par la parole, un combat par la tfila, un combat par les massim tovim et par les bonnes actions. C'est pas un combat où on est obligé de prendre des armes avec nous. Pour l'instant, l'ennemi, on ne peut pas l'identifier, c'est Amalek. La dernière guerre, c'est une guerre qui vise à effacer le souvenir d'Amalek. Il y avait un grand rav qui s'appelait le Birkat Shmuel, un grand tzaddik. Il disait qu'il sondait sa Yirat Shamaim, sa crainte du ciel, par rapport à la haine qu'il avait contre Amalek. Plus il avait la haine forte contre Amalek, et plus ça voulait dire que sa crainte du ciel, elle était développée. Et plus il était froid dans sa haine contre Amalek, et plus... Comment ça se fait? J'ai un de mes maîtres qui s'appelle Rav Moshe Khaliwa, une grande lumière du Ham Israël, qui m'avait expliqué que quand on se trouve devant le mal et on se sent comme ça indifférent au mal, ça ne nous touche pas, ça ne nous fait pas mal au cœur de voir du Chilul Hashem, de voir une profanation du nom de Dieu. Ça ne nous fait pas mal au cœur de voir quelqu'un qui est dans une situation difficile et tout ça, et que quelqu'un d'autre ne l'a pas aidé, ou de voir que le mal il est répandu dans le monde, qu'il y a des problèmes d'homosexualité, de gay pride qui veulent faire à Yerushalayim, on n'en a rien à faire, c'est pas grave, et tout ça, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, il faut être ouvert un petit peu et tout ça, c'est pas grave, dans le palais du roi d'Akadash Baruch Hu, on peut venir souiller le territoire, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il est comme ça, ça veut dire que sa crainte du ciel, elle est proche du niveau zéro. Mais si quelqu'un il se sent agressé et interpellé par le Gvod Malchut Shamaim qui est bafoué, et par le respect d'Akadash Baruch Hu, le Gvod Hashem qui est mis à mal, ça veut dire que sa crainte du ciel, elle est grande, parce qu'il se sent agressé par le mal. Et vous savez, jusqu'au temps où on va devoir identifier Amalek, où la guerre elle sera donc une guerre physique, c'est une guerre qui relève de la spiritualité. Le Amalek, on peut l'affaiblir par les forces de la Torah, par les forces des mitzvot. Comme c'est marqué à Kol Kol Yaakov et Yadami et Desav. La voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains d'Esav. Et le Midrash Rabba nous dit, tant que la voix, c'est la voix de Yaakov, qu'il y a la voix des enfants qui étudient la Torah et qui font les mitzvot, qui sont en train de raisonner dans les Baté Knessiot et les Baté Midrashot, comme je vous avais dit la dernière fois au nom du Chafetz Chaim, qui demandait à ce que les gens viennent crier Amen Yeshemé Rabba dans le Kaddish, et qui viennent faire du Limoud Torah dans les Baté Knessiot et les Baté Midrashot. Personne ne peut nous toucher, Rabotai, on est intouchables. Comme il avait dit le Rav Yecheskel Levinstein pendant la guerre, une fois il y avait une guerre, je crois que c'était la guerre du Golfe. Tous les gars, dès qu'il y avait les informations et tout ça, ils arrêtaient d'étudier, ils allaient tout de suite mettre leur oreille pour le transistor pour aller voir ce qui se passait sur le front. Le Rav Yecheskel, il a tapé sur la table comme ça, il a tapé trois fois, il leur a dit Rabotai. Il leur a dit, vous voulez savoir ce qui se passe sur le front? Regardez dans le Beit HaMidrash. Regardez dans la maison d'études de Poniovitch où il y a 2000 personnes qui étudient. Si jamais nous, on est en train de s'endormir, que notre voix elle est en train de s'affaiblir, vous n'avez pas besoin d'aller voir ce qui se passe là-bas. Les ennemis sont en train de triompher de nous. Mais si nous, on est comme des lions et qu'on se bat de toutes nos forces, il dit, sachez que nos frères là-bas, ils sont en train de triompher parce qu'on leur donne les forces de triompher. Parce que la guerre à Boutaï, elle se mène dans le ciel. C'est une guerre qui se mène avec les mérites et avec les avérotes. Plus les mérites ils sont présents pour le Ham Israël, mes chers amis, et plus Akadosh Baruch Hu il nous protège et on triomphe de nos ennemis. Parce que la guerre qui est en haut, elle correspond à la guerre qui est en bas. Nous on ne sait pas, mais il y a des anges. Comme on dit sur le Saro, l'ange d'Égypte. L'ange d'Égypte, on l'a vaincu et tout ça par quoi? Par les mérites des mitzvot qu'on a fait. Vous savez qu'il y a un ange qui dirige chaque chose, dans chaque pays, dans chaque peuple et tout ça. Il y a des anges qui sont présents. Si l'ange d'Israël il est puissant et qu'il l'emporte sur l'ange des nations, alors nous on gagne aussi nos guerres. Mais si jamais notre ange il s'affaiblit et les autres ils triomphent sur notre ange, alors on peut perdre. Et cet ange là, Rabotai, qui c'est qui lui donne la force? Cet ange, c'est les Bnei Israël qui leur donne la force, avec les Limud Torah, avec les Teilim pour les filles, avec la Gdusha de la Tzniut. Rabotai, c'est marqué, Chafetz Chaim il nous dit, le grand maître de la Torah, il nous dit la seule fois dans toute la Torah où Akadosh Baruch Hu il menace le peuple d'Israël d'enlever la présence divine du camp d'Israël. C'est marqué qu'à une seule reprise, c'est pas marqué dans l'idolâtrie, c'est pas marqué dans la cacheroute, c'est pas marqué dans le Shabbat. C'est marqué une seule fois à Rabotai. Lohi Rebecha Ervat Davar, Shav Meacharecha. Ne sera pas vue la nudité dans le camp d'Israël. Sinon, je me retirerai de vous. Rabotai, ici à Kadosh Baruch Hu, il se retire de nous parce qu'on voit la nudité dans le Ham Israël. qu'on sort là-bas avec le Bermuda là-bas du jardin japonais là-bas ou du parc Borély, de la jardinière là-bas de Hong Kong, où tu vas avec le truc des comptoirs des cotonniers, le débardeur là-bas et tout ça, tu fais l'américaine sur la plage et tout ça. Ou toi aussi, Habibi, tu vas là-bas sur la plage de Oklahoma avec Quicksilver et les siens faire du surf et tout ça, avec James Bond. Ouais. Et bien à ce moment-là, Rabotai Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est la seule fois où il nous le dit, mes chers amis, c'est la seule fois où Akadosh Baruch Hu, il a parlé clairement. Shav me'acharecha, je me retirerai de vous. Parce que la Kdusha, mes chers frères, ma chère famille, c'est la chose la plus importante pour notre peuple. Si jamais la Kdusha, elle est puissante et elle est forte, nos ennemis, c'est un bouclier contre nos ennemis. Une femme qui est prête à transpirer pour la Torah et pour les mitzvot, pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach, que c'est une bat mélère, c'est la fille du roi Rabotai, elle se couvre comme Akadosh Baruch Hu lui a dit. Ces larmes qu'elle a versées pour faire cette mitzvah et cette transpiration qu'elle a versée, c'est celles qui serviront à faire Triat HaMetim. De la même façon, le garçon qui a mis son tzitzit et qui a fait Messirut Nefesh pour mettre son tzitzit alors qu'il faisait très chaud son tzitzit et tout ça, c'est dur pour lui de le mettre. Il est l'été et tout ça. Il a ce tzitzit qui lui rappelle que c'est un Ben Israël. Il est en train de faire le monowalk sur la piste là-bas. Hal Michael Jackson et tout ça. Et il est parti maintenant, on peut dire. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais bon, en tout cas, vous avez compris. On ne va pas lui dire trop de titres et tout ça. Parce que moi, j'étais un partisan de Michael Jackson, mais je l'ai détrôné, je vous raconterai l'histoire après. Je vous raconterai une histoire, si jamais, mais en comité restreint et tout ça, pour les intimes, vous venez, je vous raconte à la fin. Il dit, celui-là, là, il est en train de faire le truc et tout ça, il fait des danses et tout ça, folklorique. Ça. Et après, le gars, il danse un peu avec sa main sur la poche et tout ça, et tout de suite, là, il sent son tzitzit, là. Il dit, oula, qu'est-ce que je fais ici et tout ça. Il prend la fuite et tout ça, il remonte là-bas, il s'en va de la boîte noire, il dit, je peux pas rester là. Il dit, pourquoi? Parce qu'il a son tzitzit. Rabotai, son tzitzit, Rabotai, il est en train de transpirer avec ce tzitzit pour faire la volonté d'Hachem. Il est en train de donner des forces et des boucliers protecteurs à tous les soldats qui sont sur le front. Tu comprends pas, toi, tu te dis, mais c'est quoi, on est venu nous dire des trucs incroyables, tout ça. C'est marqué dans la Torah. La guerre, elle dépend des mérites du Ham Israël. Réchit, Goïm, Amalek. Les prémices des peuples, c'est Amalek. Et Amalek, on sait comment il nous a attaqué, on va le dire dans quelques instants. Amalek, il nous a attaqué avec des armes redoutables. Il a lutté contre la Torah et il a lutté contre la Emouna. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, si jamais on ne croit pas que la guerre, elle dépend de ça, et que cette guerre et ce conflit, il dépend de tes forces et de ton artillerie militaire et de ton artillerie lourde et de ta géostratégie. Et de tes géostratèges, de ta géopolitique et de ta couverture du territoire de la défense nationale, il dit c'est que tu es atteint par le syndrome de Amalek qui veut déplacer le centre d'intérêt, qui veut te faire croire que la guerre elle est là alors qu'elle n'est pas là-bas, Habibi. La guerre elle est dans les mérites. Et toi tu as réussi à te couvrir, tu as permis à Kadosh Baruch Hu de résider dans Am Israël. Le Hafetz Chaim il nous dit que les Bnei Israël au nom du Midrash, c'est une chèvre unique, la chèvre de M. Segan, vous connaissez. Ouais, elle est entourée par 70 loups-garous. Vous les connaissez, les loups-garous aussi, c'est les nations. Il lui dit, si Akadosh Baruch Hu y retirait son bouclier protecteur, ne serait-ce qu'un instant, de ses Bnei Israël, il se ferait dévorer. Il dévorerait très vite et très bien. Il peut le dévorer d'un coup. Il n'y a plus de peuple d'Israël, Rabotai, plus. Il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est un chômeur. On dit chômeur Israël, chémor, chérit Israël, et ça pendant les Slichot. Hachem, c'est un chômeur sachar, un gardien gratuit. Qu'est-ce qui caractérise un gardien gratuit, mes amis? Le gardien gratuit, c'est celui qui te garde quand il a envie de te garder. Mais s'il n'a plus envie de te garder, il ne te garde pas. Parce que toi, tu ne l'as pas payé pour ça. Il y a Kadosh Baruch Hu de la même façon. Si jamais on fait sa volonté, alors il nous protège, il nous préserve, il nous garde, il est avec nous, il est à nos côtés. Mais il nous a dit, la seule chose que je ne pourrais pas admettre, c'est qu'il y ait la nudité dans le clan d'Israël. Il dit, c'est pour ça, Rabotai, celui qui se renforce dans ça, il n'imagine pas quel Hatzala et quel Gdusha il amène dans le peuple d'Israël. Et quelle protection et quel bouclier magnifique il amène pour les enfants d'Israël. Rabotai, ça tourne autour de ça, la guerre de la fin des temps. On sait, c'est marqué sur ce que je veux dire, sur Akol, Kol Yaakov et Adaïm et Desav. Un jour, ils sont venus demander à Bilam. Bilam, c'était le pire ennemi d'Israël. Ils lui ont dit, Bilam, est-ce qu'on peut attaquer les Bnei Israël et tout ça? Toi qui connais bien les Bnei Israël et que tu as voulu les maudire et tout, et Akadosh Baruch Hu il a dit tu ne pourras pas maudire un peuple qui est béni et toi tu l'as même reconnu et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une bénédiction Bilam. Il leur a dit moi tovu elecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, quelles sont belles tes demeures. Ça veut dire quoi? Il nous explique les Mefarshim que les tentes du Ham Israël elles étaient toutes orientées en quinconce. Ça veut dire que chacune elle se donnait le dos l'une à l'autre. Il n'y avait jamais deux tentes qui étaient en face pour ne pas qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passait dans chacune.
il a mis un point d'honneur sur la pureté, la Kdusha et la Tahara dans le Ham Israël, Rabotai. Cette tzniout, cette pudeur extraordinaire qui résidait dans le peuple d'Israël, c'était le bouclier qui l'a empêché de maudire les Bnei Israël. De là, on apprend que si jamais les Bnei Israël n'avaient pas fait cette Messirut Nefesh pour garder cette pudeur, alors il aurait pu les maudire, et on connaît la malédiction. Dans le premier Perek, Sdav Zayin, elle dit là-bas à la page 7 que Bilam y connaissait le seul instant où Akadosh Baruch Hu se met en colère contre les Bnei Israël et où la Midat Adin elle prend le pas sur la Midat Arachamim. Le jugement de rigueur il prend le pas sur le jugement de miséricorde. Et il dit si ce n'était pas la Rachmanout infinie d'Akadosh Baruch Hu qui l'a empêché de prononcer Kalem, maudit ce peuple, il aurait pu nous exterminer en un instant. Et chaque jour il y a une mitzvah de se souvenir que Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde il nous a protégés, il nous a préservés. Mais cette miséricorde, Rabotai, il nous l'a donnée à un prix, c'est qu'on était pudique, qu'on avait cette tzniout, on avait cette retenue et cette réserve. On n'était pas comme les peuples des nations qui sont aux mœurs dévoyées. Et on est rentré dans le 50 degré d'impureté, Rabotai, dans le 50 degré de Touma. Depuis mai 68, on est rentré dans le 50e porte d'impureté, Rabotai. On voit les gens, ils sont en train de parler de la libération de la femme. La libéralisation de la femme et tout ça, la femme c'est l'égal de l'homme et tout ça, pas de problème et tout ça. Rabotai, c'est ça la libération de la femme, l'émancipation de la femme. On l'a réduit à être un objet de convoitise et on l'utilise à des fins commerciales, on instrumentalise la femme à des fins commerciales et c'est ça l'émancipation de la femme. Et la Torah elle vient, elle te dit « Gvoda bat meler pnimai » Le kavod d'une batmélère, le respect et l'honneur d'une fille de roi, c'est son intériorité, c'est pas son extériorité. On la vend pas comme une marchandise, on l'expose sur la place publique à bas prix, parce qu'elle est zola, parce qu'elle est bon marché, comme les marboulas des nations. Il dit la femme du clan d'Israël, Rabotai, on la respecte et on l'honore pour son intériorité. Et son intériorité, elle dépend d'elle. Elle dépend d'elle, Rabotai. L'autre là-bas, on lui fait le délit de faciès, elle est née avec une face un peu bizarre et tout ça. Elle va pas avoir de succès, elle n'aura aucune chance dans le monde de l'émancipation de la femme. Où on te vend là-bas la tomate cerise là-bas avec une femme là-bas à moitié nue. Tu comprends pas tellement le rapport entre les deux. Mais en tout cas, force est de constater que c'est comme ça. Je vous dis, on marche dans la rue là-bas, il faut se munir d'un chien d'aveugle pour ne pas se faire aveugler par tous ces posters là-bas des femmes de Dior là-bas, bienvenue et tout ça. Bienvenue au Guéinam, ils te disent là-bas. Tu comprends pas ce qui t'arrive, je te fais déchirer de tous les côtés. Rabotai, c'est très difficile. C'est une guerre très dure, c'est la guerre de la Gdusha contre l'impureté. Les forces de la pureté contre les forces de l'impureté. Et les Bnei Israël, plus ils font rentrer de pureté dans leur peuple, et plus les filles d'Israël, elles sont tzadekettes, elles sont Gdushat et Théorot parce qu'elles font Messirut Nefesh, pour ne pas être une embûche devant les aveugles que nous sommes. Et plus elles sont dignes de louange. Sheker Achen Vevel Ayofi Shayrat Hashem Ititalal, il nous a dit Shlomo HaMelech dans Kohelet. Mensonge que la grâce, vanité, que la beauté, seule la femme qui craint l'éternel est digne de louange. Rabotai, cette femme qu'on respecte pour son intériorité, elle mérite le respect qu'on lui donne. Parce que c'est quelque chose qui dépend d'elle-même, ce travail des midot, ce travail de l'intériorité qu'elle a. Mais une femme qui se fait respecter, ou qui se fait pas respecter, ça s'appelle pas du respect, ça s'appelle de la convoitise. Qui se fait convoiter pour son extériorité, quel est son mérite dans ça? Et ça c'est la guerre justement contre Amalek. Amalek qui veut lutter justement contre la Kdusha et la Tahara. Mais on a vu que Bilam il n'a pas pu nous attaquer, pourquoi? Parce que Bilam c'est Réchid Goïm Amalek, il a dit. Il a dit Amalek c'est eux qui luttent et ils nous montrent comment ils nous attaquent. Ils nous attaquent par quoi? Par l'impureté. Il faut rentrer l'impureté, il faut rentrer Chas V'Shalom Zera Levatala, toutes sortes de catastrophes qui créent des cataclysmes dans le monde. Quand on voit qu'il y a des tsunamis, quand on voit qu'il y a toutes sortes de choses comme ça, des catastrophes naturelles, la Torah elle explique là-bas. Une Gemara dans Masechet Brachot, je crois, elle dit que c'est quoi les tsunamis? C'est quoi des catastrophes naturelles comme ça? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure. Et parfois, il y a des gouttes de larmes. Il y a des larmes d'Akadosh Baruch Hu qui tombent dans l'océan et c'est ça qui provoque tous les cataclysmes naturels qu'il y a. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit le Matsav Rouhani, la situation spirituelle de la génération à Botaï, il pleure. Il pleure de nous voir comme ça, qu'on est perché complètement. Il pleure qu'on voit qu'on est complètement, on n'a rien compris, on s'est complètement perché sur notre planète. On n'a pas compris de quoi il s'agissait. On a marché dans les combines de Amalek qui nous fait croire que la guerre elle est physique alors qu'elle est spirituelle. Hashem Yitbarach il verse des larmes dans l'océan et les spécialistes les plus grands de la sismie, géosismique et tout ça, là je les connais pas, là, les sismologues et tout ça on les appelle, qui font les études sur les séismes et tout, ils ont découvert que ça venait des tremblements de terre qui sont causés par les eaux, par la mer et tout ça. Il dit, Habibi, Akadosh Baruch Hu, quand il voit un tzadik là-bas à Marseille ou une tzadekette qui sont venus étudier un shiur de Torah, il aurait dû y avoir des catastrophes très très graves. Toi, tu as été un bouclier pour tes frères. Tu t'es associé à la dernière guerre, la guerre de la Emouna et du Bitachon, que c'est toi qui peux sauver le monde, et c'est toi qui peux amener le Machiav, et c'est quoi, toi qui peux, causer, qui peux provoquer toute la protection et le bouclier dans tout le Ham Israël. Parce que tu as compris que le kavod, c'est d'avoir une fille qui est tzadekate, noire et qui n'est pas une embûche devant un aveugle. Et tu as compris qu'il faut choisir une fille qui est tzadekate. Et toi, la fille, tu as compris que tu ne dois pas être une embûche devant ce garçon. Et tu vas faire en sorte de te faire respecter, de te faire honorer, pas pour ton extériorité, mais pour ton intériorité. Et là, tu auras tout gagné dans ta vie. Parce qu'on va t'aimer pour le reste, pour l'éternité. Plus tu iras et plus tu te bonifieras, plus tu seras pur et kdosha et théora dans ton intériorité. Parce que on va, avec le temps, on se purifie, on se raffine. Mais le physique, c'est l'inverse. Si toute l'attirance et les shidouchim qu'on fait et les relations qu'on a et sont basées purement sur le physique, plus le temps passera et plus on se lassera de la personne et on se séparera, parce que comme une belle fleur qui se flétrit et qui se fane, ouais, la jolie rose et tout ça, Rosa, la jolie, vous la connaissez, c'est une chèvre de Madagascar. Donc tu comprends, la jolie là-bas, elle va, le temps il va passer, tout ça, toi tu vas plus la respecter, tu vas plus l'honorer, tu vas plus avoir de l'amour pour elle. Mais si toi tu as étudié la Torah et que tu comprends que la grandeur d'une femme c'est son intériorité, plus elle va être, plus elle va faire Messirut Nefesh pour tes enfants, plus elle va se lever dans la nuit pour les aider, plus toi tu vas lui donner de la force parce que tu vas l'honorer, la respecter, plus elle aura des forces de faire tout ce qu'elle est en train de faire, et plus tu vas t'attacher à elle, parce que plus tu donnes à quelqu'un, plus tu t'attaches à lui. Et donc plus tu t'attaches à l'intériorité, qui est la dimension qui dépend de nous-mêmes et qui dépend de l'investissement qu'on a, et plus la symbiose et l'osmose elle se fait entre ces deux êtres qui sont inséparables, comme il nous dit le Ramban, que la finalité de... Les religieux là-bas, les religieux ils sont froids et tout ça. Habibi, je te souhaite d'être aussi chaud et aussi marboule que nous. Il dit, t'imagines pas la chaleur qu'il y a entre un homme et une femme qui s'aiment d'après les lois de la Torah. C'est quelque chose, il nous dit le Ramban qui était un Rishon, Rabotai, c'est un géant de la Torah. Il dit, c'est quoi la finalité de l'existence? C'est d'être inséparable avec sa femme. C'est ça la réussite du foyer. Toi tu te dis, non, mais la réussite c'est chacun il va de son côté, là-bas la femme c'est une chef d'entreprise, elle va une semaine à Madagascar, l'autre là-bas il va à Newcastle, il fait des affaires et tout ça, ils se retrouvent une fois par mois, ils se mettent un petit peu à une petite table, elle lui amène le vison, l'autre elle lui amène le diamant, et chacun il fait une compétition et tout ça. Habibi, tu crois que c'est le vison, c'est le diamant? C'est l'amour que tu as besoin, c'est le yachas, l'attention que tu as envers l'autre. Et pareil pour les enfants et pour l'éducation des enfants, Rabotai. Tu crois que tu peux payer tes enfants avec de l'argent, avec des milliards? Les enfants, ils ont besoin de la présence de leurs parents. Ils ont besoin d'une mère qui est présente dans son foyer, qui est là pour les soutenir, pour les encourager, pour leur dire, bravo mon fils, t'as bien fait cette Mishnah, t'as bien fait un Tehillim, t'as bien mangé, tout ce que t'as fait, c'est bien, c'est magnifique, tu l'encourages. Il voit que... Il n'a pas besoin de chercher l'encouragement et il n'a pas besoin de trouver grâce aux yeux du monde extérieur qu'ils vont l'encourager. Il va dire, c'est bien, t'as bu 3 JB, t'as bu 3 girafes de bière, t'as bu 4 Cronenbourg, t'es un patron et tout ça, tu vas être dans le guide des records là-bas. Tu vas te retrouver là-bas sur le café de la plage le samedi matin avec 12 grammes d'alcool dans le sang et tu seras comme ça en train de dormir. Et tout le monde viendra te dire, te porter en triomphe, voilà l'homme qui a bu le plus grand nombre de bières. Rabotai, si jamais toi tu donnes pas l'attention à ta femme, et toi tu donnes pas l'attention à ton mari, et toi tu donnes pas l'attention de la Kdoucha et de la Tara à tes enfants, et que tu les encourages pas quand ils font des choses bien, ils vont chercher l'approbation de cette société dans laquelle on vit. Et je vous ai dit, Rabotai, depuis mai 68, on est rentré dans une ère très très destructrice. C'est quoi le 50e degré d'impureté? Vous savez que les Bnei Israël, quand ils étaient là-bas en Égypte, ils sont rentrés dans le 49e degré d'impureté. Et si jamais ils étaient rentrés dans le 50e degré, ils n'auraient pas pu sortir de là. Nous, on nous dit qu'on est rentré dans le 50e degré. Comme ça dit le Or HaChaim HaKadosh, un grand commentateur marocain, Rabbi Chaim Ben Attar, un génie de la Torah. Il dit qu'à la fin des temps, on rentrera dans le 50e degré. Ils disent, comment ça se fait que la génération d'Égypte, qui était plus grande que nous, elle n'est pas rentrée? Et nous, on est rentrés. Il dit, parce que là-bas, ils n'avaient pas la Torah. Et sans la Torah, tu ne peux pas sortir du 50e degré. Par contre, avec la Torah, tu peux mériter de rentrer dans le 50e, et par cette lumière de la Torah, tu peux t'en sortir. C'est quoi la différence entre le 49e et le 50e? Un des grands Rashi Yeshiva d'Israël, il s'appelle Rav Samuel, un Français, un grand tzaddik. Il a dit, la différence entre les deux, je crois au nom du Shulchan Arimunim, c'est qu'avant mai 68, tu devais aller à la recherche de la Touma. C'est toi qui allais à la recherche de l'impureté. Quelqu'un, il voulait faire des bêtises et tout ça, Chazon Shalom, il allait dans des maisons et tout ça, aux mœurs dissolues, comme on les appelle dans le milieu. je vous passe des expressions de maisons closes et tout ça, je ne veux pas vous traumatiser et tout. Je dis, le gars, il va là-bas dans la maison et... Tu vois, il fait toutes sortes de ch'touillottes et tout ça, il se cache là-bas, pas de problème. C'est lui qui va là-bas. C'est lui qui va à la recherche de cette impureté. Rabotai, la différence dans notre génération, c'est l'impureté qui te jaillit dessus. C'est elle qui vient à ta rencontre. Tu es en train de surfer là-bas avec Jacqueline et tout ça, tu lui parles sympathiquement. Si Jacqueline, ça, viens passer le Shabbat chez moi et tout ça, je vais te présenter à mes parents et tout. Et là, tu as la star là-bas de Mahmoula, là-bas, qui a appairé là-bas sur l'écran et tu dis, venez avec moi par ici et par là et ça. Des flashs et tout ça, ça te déchire ta neshama. Toi, t'étais de bonne intention, t'as voulu écouter un shiur et ça sur www.toradelumière.com, c'est mon site. Toi, tu voulais écouter le shiur là-bas sur toradelumière.com, t'étais content et ça, t'as voulu rentrer sur le site et ça. Quand tout à coup, là-bas, il y a eu l'attentat suicide, la Mahboula, elle arrivait là-bas avec ses habits et tout ça, fraîchement vêtue et tout ça. Ah bébé, qu'est-ce qui se passe ici et tout ça? Moi, je suis venu pour écouter un shiur de Torah, on m'amène des gens. En bouteille, c'est la Touma qui rentre à l'intérieur du foyer. Le gars, il fait venir la télé là-bas, le cercueil ambulant chez lui et ça. Ouais, celui dans lequel il va être enterré avec lui, sa femme, ses enfants, tout le monde et tout ça, ils viennent avec cette télé chez eux, les bouches d'égout qui remontent et tout ça. Et là, lui, il voulait regarder Chasse-Pêche, Nature et Tradition et ça, l'émission du... c'est le concurrent de 30 millions d'amis, c'est sur la 6. Donc le gars, il voulait regarder ça, là-bas, il n'y avait pas Mabrouk et tout ça, parce que c'était les vacances, Mabrouk, il est parti se réfrigérer là-bas sur la terre de Zanzibar et tout ça, il était tranquille. Et quand tout à coup, là-bas, il y a eu le truc, et là-bas, ils te mettent une pub là-bas qui va te terrasser et tout ça. Habibi, c'est la différence qu'il y a entre le 49e degré d'impureté où toi tu recherches l'impureté et le 50e où toi tu es interpellé et agressé. Nonobstant que tu es en train de marcher là-bas, tu vois des gens qui sont de mauvaise mœurs, c'est ça qui t'apparaissent dans des écrans là-bas, par ici, par là. Tu dois faire attention à tes yeux. Rabotai, il y a un des grands tzadikim qui s'appelait, il y avait la Gemara dans Masechet Sanhedrin, à la page 98, là-bas, tzadikret. Amoud Aleph, elle dit là-bas la Gemara que les Chachamim de la génération ils s'interrogeaient pour savoir si jamais ils voulaient recevoir ou non la présence de Mashiach. Il y en avait qui disaient nous on veut tous que Mashiach y vienne. Il y en avait qui disaient nous on veut que Mashiach y vienne mais on espère qu'on ne sera pas là pour l'accueillir. Et d'autres, il y en avait un seul, oui, il disait nous on espère que le Mashiach y viendra et nous espérons que nous serons là pour le recevoir. Alors ils sont venus, ils lui ont dit, Habibi, tiens, comment c'est possible que toi tu es si sûr de toi et tout ça. On sait très bien que les gens là-bas, les grands Tzantanaïm, les Tzadikim de la Gemara, ils n'avaient pas peur de la guerre matérielle. Parce que mes chers amis, on voit que dans les camps d'extermination et de la mort lente, et dans tous les génocides qu'il y a eu à travers les générations, et dans toutes les persécutions qu'il y a eu, les premiers qui étaient rentrés pour réchauffer le cœur de leurs frères et les réchauffer dans la Emunah et dans le Bitachon Bachem, c'était les Talmidei Chachamim. Il y en a qui auraient pu avoir la vie sauve, et ça, ils ont dit on veut rentrer avec nos frères pour leur donner du courage, pour ne pas renoncer à la dernière guerre qui est celle de continuer à croire jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment, de rendre dans notre âme en sanctifiant le nom de Dieu, comme il y a Rabbi Akiva, dans la Gemara dans Masechet Brachot à la page 60, folio B, qui dit Rabbi Akiva, Yatsa Nishmato Bechad, heureux sois-tu Rabbi Akiva, que ta Neshama, quand bien même les Romains, ils ont voulu te tuer et te peigner le front avec du fer. Ils ont pris un peigne de fer, ils t'ont peigné le front. Ils ont voulu t'anéantir et t'esquinter. Toi, tu as fait le schéma Israël et tu as sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. De la même façon, les grands Talmidei Chachamim, les grands Tzadikim, ils n'avaient pas peur de la guerre matérielle. La guerre matérielle, ils sont rentrés dans les camps, ils ont renforcé leurs frères, ils leur ont donné des kohot. Et Rabotai, vous savez ce que c'était la difficulté qu'ils avaient dans ces camps? La difficulté qu'ils avaient, où elle était leur tête? Leur tête, c'était pas d'aller manger ou d'aller boire ou d'essayer de faire quoi que ce soit. Les gars, ils essayaient de rester réveillés jusqu'à 3h du matin, jusqu'à 11h du soir pour pouvoir dire le Kiryat Shema, qu'il faut le dire à la tombée de la nuit. Les difficultés qu'ils avaient, ils nous disent les grands Talmidei Chachamim qui étaient là-bas, c'est qu'ils voulaient rester réveillés pour pouvoir dire la Sfirata Omer à la tombée de la nuit. Voilà où elle était leur tête pendant que les autres, ils étaient en train d'essayer d'anéantir le Ham Israël. Eux, par la lumière de la Torah, ils étaient encore en train de se battre. Et ils ont gardé leur humanité, ils ont gardé leur fidélité, leur confiance envers Akadosh Baruch Hu. Rabotai, ils ont dit à tous ces ennemis qui ont voulu nous exterminer à travers les générations, il est dit, vous avez pris tout ce qu'on avait, vous avez pris nos maisons, vous avez pris vous avez essayé de prendre notre joie de vivre, vous avez essayé de prendre nos maisons, vous avez essayé de prendre notre argent, de spolier nos biens, de prendre nos sifrei Torah, de prendre notre liberté. Il dit, mais il y a une seule chose que vous ne pourrez jamais prendre. C'est la émouna qu'on a envers Akadosh Baruch Hu et le bitachon qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre père et qu'on l'aime. Il dit ça, montez, descendez, faites ce que vous avez envie de faire, tournez dans le monde. Mais il dit ça, c'est le passeport pour entrer dans le Olam Haba. Ça, c'est la chose que je ne vous concéderai jamais. Rabotai, un homme, plus il est éprouvé, plus il a des difficultés, plus il a des épreuves. Et plus il peut sanctifier le nom de Dieu d'une façon extraordinaire. De montrer, regardez tout ce qui m'arrive. Regardez toutes les épreuves et les difficultés que j'ai eu à traverser dans ma vie. Et malgré tout, je suis resté fidèle à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, celui-là, vous imaginez pas le Kiddush Hashem qu'il fait dans le monde. Vous imaginez pas comment il sanctifie le nom de Dieu. L'autre là-bas, le marboule qui a eu un problème à ses examens, il peut dire, ouais, mais ça c'est bon, il faut absolument que j'aille à ma garde, et tout ça, c'est le Shabbat et tout ça, sinon je vais perdre toute ma vie et tout. Il dit, Habibi, c'est quoi, c'est ça ce petit problème-là, il te pose un problème. Il dit, regarde l'autre, il a perdu toute sa famille à la Shoah, il a continué à être un tzaddik. Il a continué à servir Hachem, il a continué à faire avodat Hachem. Il dit, est-ce que c'est un problème, toi, c'est illusoire, c'est dérisoire ce que t'as. Il dit, quand je vois celui-là, j'ai plus d'excuses. Je me dis, regarde-lui toutes les épreuves qu'il a eues. Il est malade, malgré tout, il se lève. Il a des difficultés, malgré tout, il est présent. Et moi, je vous parle en connaissance de cause. J'ai eu un père à la Vachalom que j'ai écrit le Sefer à sa mémoire. Il est présent là-bas dans le livre. Dans chaque paracha, on ramène un sipour sur sa vie. Quand bien même il n'avait plus de force et il était terrassé par la maladie, les médecins, ils ont découvert qu'il devait vivre pendant 6 mois. Et nous, on a consacré notre vie à la Torah pour le sauver. Il a vécu pendant 6 ans, Rabotai. Parce qu'on savait que on avait des autres médecins. C'était Akadosh Baruch Hu, le médecin du monde. Rofé Cholam ou Israël. Il dit, mon père, à la Vachalom, il avait des douleurs toute la nuit, il se levait pour aller à la Tfila. Toute la nuit, il ne pouvait pas dormir à cause des douleurs qu'il avait dans les os. Il avait une maladie qui se répandait dans ses os et tout ça. Il était très, très, très malade. Le dernier kippour qu'il a fait, il est resté comme un malard toute la journée debout. Il allait à la Beit HaKnesset, 4 allers-retours, il montait 4 étages, il descendait 4 étages dans la journée. Il devait se masser les jambes pour pouvoir arriver jusqu'à la Beit HaKnesset. Abodai, quand tu vois des tzadikim comme ça, qui ont fait Messirut Nefesh, moi, la première année, quand j'ai perdu mon papa, et ça, il y a des fois, je me levais ça au net, à 3h du matin, j'allais à la synagogue, et ça. Je vous raconte pas ça pour faire le malin, parce que franchement, vous allez après, on va prendre chacun notre chemin, et ça, peut-être vous viendrez me voir, Bezrat Hashem, à la Yeshiva cet été, tout ça. Je serai content de vous voir, mais chacun va prendre son chemin, il n'y a pas de problème. Je vous raconte ça parce que moi, ça m'a donné des forces, et ça m'a permis de surmonter des épreuves, donc je vous le dis parce que vous êtes mes frères, et je veux que vous profitiez de mon expérience pour qu'on grandisse ensemble. Et alors il y a des fois où je me levais dans la nuit et tout ça, je voulais aller à la synagogue et tout ça parce que je priais de bonne heure. Et je sentais que j'avais pas la force et tout ça parce que je m'étais couché très tard, parce que j'écrivais le livre, je l'ai écrit la première année où mon papa il est parti et tout ça, dans la nuit j'écrivais et parfois je dormais pas beaucoup, je me levais après. Et là je me disais, t'as pas honte de ne pas te lever, frère le lion. Et le tigre est en toi, Frostiz. Vous connaissez Tony avec son bandana et tout ça, vous le connaissez. Il dit, j'ai dit, t'as pas honte et tout ça de ne pas te lever comme le lion et tout ça, le roi lion et tout, il faut être présent. Il gaber, carré, la sodre et son avinou, je sais pas jamais. Je lui dis, papa, il n'avait pas la force. Et lui, il était encore plus fatigué que moi, il n'était pas dans des situations, il ne pouvait pas dormir à cause des douleurs qu'il avait. Il se levait le matin, il avait sa cravate, il avait son costume et il fonçait à la synagogue. Il dit, est-ce que toi, t'as le droit de dire ça? Quand tu vois ce que les autres, ils ont fait pour te sauver la vie. Rabodaï, ceux qui étaient dans la Shoah, ils nous ont sauvé la vie. Il devait y avoir des décrets qui devaient exterminer tout le peuple d'Israël normalement. C'était des choses très graves qu'il y a eu à cette époque-là. On n'imagine pas ce qui s'est passé. C'est des choses très graves. Le Hafetz Chaim, il a perdu un enfant une fois. Un fils, Tzadik, Kadosh et Taor, il était extraordinaire, il était amené à être le maître de la génération. Sa femme, elle est venue, elle a dit, comment une chose pareille? Il dit, pourquoi notre fils, il a quitté le monde? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il lui dit, il était Tzadik. Il n'y avait pas un Tzadik comme lui dans la génération. La Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est justement pour ça. Hafetz Chaim, il a dit, c'est justement pour ça qu'Hachem Baruch il l'a pris. Il a dit, il y avait un décret qui devait exterminer la moitié de la génération. La Kadosh Baruch Hu, il a demandé la permission de le prendre à lui pour que les autres y soient en train de vivre. Rabotai, c'est grâce à ce fils du Hafetz Chaim qu'il y en a une bonne partie d'entre nous qu'on est là. Et comment on doit faire pour lui rendre hommage à tous ces gens qui se sont tués pour la Torah et les mitzvot, qui sont été prêts à donner leur neshama pour ça? On doit faire la Torah et les mitzvot, c'était le dernier commandement qu'il nous disait dans les camps d'extermination. Et tu le raconteras à tes enfants. Il dira, Rabotai, moi j'ai vécu avec des survivants de la Shoah. J'ai organisé dans le monde des journées de souvenirs de la mémoire et de ça, et des génocides de la Shoah, pour ne pas qu'il y ait des renvois dos à dos avec ce qui se passe en Israël et de ça, qu'ils disent qu'on est en train de faire subir au peuple, que la victime est devenue le bourreau et de ça, et tous ces négationnismes et ces révisionnismes qu'on est en train d'entendre et ça. J'ai vécu avec eux, Rabotai. Et la chose qui revient et qui est redondante, la chose que les gens ils disaient dans les camps d'extermination, tu le raconteras à tes enfants. Tu raconteras Veigata Lebincha, ce commandement immémorial qui nous est enjoint le soir de Pessah de raconter notre histoire, comme Akadosh Baruch Hu de génération en génération, Veishamdal Avotenu Velanu, Bechol Davador Omdim Alenu, Lechalotenu, Akadosh Baruch Hu Matsilenu Miyado. Akadosh Baruch Hu, dans chaque génération, il y a des gens qui se sont levés pour éradiquer, pour exterminer le peuple d'Israël, Rabotai. Et Hashem Yitbarach, il nous a sauvés, parce que nous, on est le buisson ardent. Le buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. On a voulu nous gazer. On a voulu nous exterminer, nous couper à l'épée, nous couper en morceaux, nous assimiler. On a voulu nous faire brûler, mais on a survécu, Rabotaï. On brûle, mais on ne se consume pas, parce qu'on est le peuple d'Hachem. On est le peuple éternel. On a la Neshama d'Hachem Yitbarach en nous. Et cette Neshama d'Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'elle est éternelle, nous aussi on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, on est le peuple éternel. La meilleure chose qu'on peut faire à la mémoire de tous ceux qui ne sont plus là, c'est de faire la Torah et les mitzvot et de reconstruire le Olam HaTorah, Rabotaï. C'est ça la plus belle chose qui soit. Parce que dans chaque exil, dans chaque exode, dans chaque persécution contre l'âme Israël, le premier décret qu'ils faisaient les peuples des nations, ils nous prenaient, ils nous faisaient l'autodafé sur la place publique. Ils voulaient effacer le peuple d'Israël et la Torah. Ils brûlaient les rouleaux de la Torah sur la place publique. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui est ignorant et un peuple qui est privé de son histoire, c'est ça un peuple esclave. Mais on voit qu'à chaque fois, la seule chose que les Bnei Israël apportaient quand ils allaient dans les sentiers sinueux de l'exil, quand ils sortaient des camps et quand ils sortaient de l'Inquisition et de toutes ces choses-là, ils laissaient leur American Express, leur gold, leur platinum et tout ça, la black card et tout ça du crédit lyonnais, l'infinite on l'appelle, possibilité de couvert abominable et tout ça. Et après l'autre il peut avoir la banqueroute comme à la roue de la fortune et tout ça, il a froid et tout ça le gars, pour l'éternité. Et ça tu le laisses ta black card, tu laisses ton snowboard, tu laisses là-bas tous tes hôtels et tous tes jet skis et tous tes tableaux là-bas de Paloma Picasso et les siens, et tous ces marboules et tout ça, Salvador Dali et les siens, tout ton kino panorama et tout ça, vous connaissez? Il se fait tout fumer en verlan le gars, donc vous connaissez ça. Donc le gars il a abandonné tous ses objets d'art et tous ces trucs, la seule chose Rabotaï qu'il prenait avec lui c'était quoi? C'était les rouleaux de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ce qui assure la promesse de notre avenir, Rabotaï. La transmission à nos enfants de notre message immémorial de la Torah. C'est sur ça que le peuple d'Israël y repose. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas assimilé? À travers toutes les générations, à travers tous les exils qu'on a vécu, et le plus terrible d'aujourd'hui qui est l'exil des Dômes, où on est en train de... Où nos chachamim nous disent que l'assimilation elle a fait plus de victimes encore que ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il dit c'est la lumière de la Torah Akdosha qui est le garant de notre avenir. C'était le gage de notre passé, c'est la promesse de notre avenir à Botaï. C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit, qu'il faut garder dans notre tête. Pour revenir à ce que je vous ai dit, il faut bien comprendre que la guerre de la fin des temps, elle va donc s'établir dans ça. On voit à chaque fois on a conservé notre Torah, on est resté fidèle à ça et c'est ce qui nous a donné la Siyata d'Ishmaïa pour se sortir de là. Vous savez Amalek, c'est marqué qu'Amalek il attaque les Bnei Israël dans trois pôles. Deux pôles principaux qui sont délimités en trois choses. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Amalek il est venu, il a voulu les attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait contre eux? C'est marqué « Vayavo Amalek Refidim ». Il est venu à Amalek qui les a attaqués à Refidim. La Gemara dans Maseret Sanhedrin, la Torah orale, elle nous dit dans Sanhedrin, pourquoi on nous précise où Amalek il a voulu nous attaquer? Il dit parce que c'est quoi Refidim? Refidim, ça vient te dire que c'est un acrostiche de Rafou Yedem in Torah. Refidim, ça vient te dire ils ont affaibli leurs mains dans l'étude de la Torah. Donc on voit quand est-ce que les Bnei Israël ils sont en danger, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand leurs mains elles s'affaiblissent dans l'étude de la Torah. Dès qu'Amalek il a vu que les Bnei Israël se sont affaiblis dans leur étude de la Torah, il a pu nous attaquer, il a pu mettre à mal le peuple d'Israël et il les a mis en grand danger. Donc on voit la première des choses que les peuples veulent faire contre nous, c'est de nous affaiblir. Quand on étudie mal, quand on se relâche, quand on oublie notre Torah Akdosha, les peuples y viennent et ils nous rappellent qu'on est différent d'eux. Comme ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il y a des gens qui disaient, mais nous on est des Allemands, nous on est des citoyens allemands et tout ça, on dirige les banques, on est des patrons, on est des grands pachas et tout ça. Et dire, Rabbi, on se marie même avec les Allemands et tout ça, il n'y a pas de problème, tout ça. Rabbi, que tu sois marié avec qui tu veux, même si t'es marié et que t'es encore d'une deuxième génération, d'une troisième ou d'une quatrième génération, on va remonter, on va te rappeler que toi tu es un Ben Israël et que tu n'as pas le droit de te mélanger avec les autres. Parce que t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu et t'es Kadosh et Tahor, et la Gdusha et la Touma elles ne peuvent pas se mélanger l'un avec l'autre, la lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter et coexister. C'est pour ça qu'Hachem t'a fait sortir d'Égypte. C'est pour ne pas que cette lumière et cette obscurité qu'il y avait à la création du monde, on sait que la lumière et l'obscurité elles étaient mélangées. Et Akadosh Baruch Hu il vit que la lumière elle était belle. Il lui a dit que la lumière fut et la lumière soit. Il y a eu la lumière qui est partie d'un côté et l'obscurité qui est partie de l'autre. On dit que la sortie d'Égypte, il nous dit le Mefarshim, le Even Ezra, le Beit HaLevi, c'est le remake de la création du monde. À Kadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière elle était belle, que les Bnei Israël ne méritaient pas d'être au milieu de ces gens qui étaient des obscurantistes, qui étaient aux mœurs dépravées et des idolâtres confirmés qui étaient les Égyptiens. À Kadosh Baruch Hu, il a dit je vais faire sortir Am Mikerev Am, je ferai sortir un peuple d'un autre peuple. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir. Pourquoi? Pour qu'on garde notre unicité, pour qu'on garde notre Gdusha et notre Tahara, notre pureté qui est le symbole de la lumière. Et donc on était avec Akadosh Baruch Hu et tout ça. Mais on a oublié à un moment, que notre Torah elle était présente, ils nous ont rappelé qu'on avait cette Torah et qu'on était différents d'eux. Un jour, on raconte sur un des grands philosophes romains, il est venu, je crois que c'était Adrien, l'empereur Adrien, et ça, il est venu, il a parlé avec Rabbi Onana, si je crois. Il lui a dit, c'est quoi vos soldats, vous? C'est des rigolos. Vos talmides Chachamim là-bas, ils sont dans la yeshiva, et ça, ils tournent des pages comme ça, ils font des tournées de pages et tout ça. C'est quoi la musculation qu'ils font? Ils font juste un peu de tournage de pages et tout ça, ils tournent la page par-ci, ils tournent la page par-là, et ça. Il lui dit, ils ne servent à rien, regardez, c'est des cure-dents, ils sont maigres comme des clous et tout ça. Moi, je vous ai dit, la fois, si jamais vous voulez, je fais une planchette japonaise avec vous et tout ça, je fais du combat, parce que j'étais ceinture noire de judo avant et tout ça, donc je peux vous. Après, je vais vous faire des prises et tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vous fais passer par la fenêtre s'il y en a un qui veut tester l'affaire ici. Il n'y a pas de problème. Sauf les femmes, parce que je ne m'attaque pas aux femmes et tout ça, comme vous savez, je n'ai pas le droit. Avant, j'avais des sumotori qui venaient combattre contre moi, mais au Hachem, maintenant, je me suis sorti de là. Alors, vous comprenez, il dit vos talmides Chachamim, mais ça, c'est des chèvres et tout ça, ils sont des cure-dents, ils font rien. Regarde-nous, nos guerriers, tout ça, c'est des patrons, ils sont forts, ils font les Jeux Olympiques, ils combattent, c'est des vrais et tout ça. Il lui dit, explique-moi ce que c'est votre armée, tout ça, ils font peur à personne, ceux-là. Rabbi Oudada, si, c'était bien ce qu'il leur a dit, Rabotai. Il a dit, tu sais la différence entre les tiens et les miens. Il lui dit, toi, les tiens, t'es costaud là-bas des Jeux Olympiques, ils peuvent tuer des vivants. Il a dit, moi, ils peuvent faire vivre des morts. Et voilà la différence entre mon armée et la sienne. Il a dit, toi, tes collègues là-bas, les malabars là-bas, ou les bazookas, ça dépend si on mange cachet ou pas. Ça ne mange pas de pain, de le signaler au passage qu'il y a des boyaux de chat dans le malabar, et des porcs, de porcinés cuits, tel porciné, l'ami de Winnie l'ourson. Ouais, tu manges le porciné, après t'as le neshama, toi t'as kiffé le chiour de soir, c'était magnifique et ça, t'étais content, t'as étudié toute une après-midi, tu t'es mis le compte, tu vas manger le malabar là-bas, le lendemain, tu te retrouves à le malabar là-bas de l'entrée du café de la plage là-bas ou de la maronnaise et tout ça, le gros là. Ouais. Toi t'es aussi intelligent que ce gros lard là-bas, il te dit non, c'est pas possible et ça, tu essayes de lui expliquer toutes sortes de choses, il te dit c'est pas possible et ça. Il dit, Habibi, pourquoi? Parce que ton cœur il s'est fermé à la lumière de la Torah, parce que t'as mangé un machal edition. Je vous assure, lisez ce cours-là, ça s'appelle la cache-route, la survie de l'âme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il te dit, c'est quoi la différence entre ces deux gens-là? Il dit, celui-là, il tue des vivants. Ouais, t'es le gros là-bas, il tue des vivants, il est content, il est fier de lui, il a tué des gens, c'est un patron et tout ça, bravo, t'as tué des gens, t'es content de toi. Il dit, l'autre, il peut te faire vivre des morts, c'est quoi? On sait que chaque tana de la Gemara rabotaille. Tous les gens qui sont cités dans la Gemara, ils avaient la faculté de ressusciter des morts. Ils pouvaient te dire une formule et te faire ressusciter un mort. Il lui dit, alors moi je suis content de voir cela, il est maigre, mais celui-là il est capable de ressusciter des morts. L'autre il est costaud mais il peut tuer des gens. Et ça sert à quoi? Et c'est comme ce qu'il a dit Einstein Rabotai avant de mourir. Il a dit, toute ma vie, je me suis rendu infiniment grand dans l'infiniment petit. Et il dit, j'aurais mieux fait de me rendre infiniment petit dans l'infiniment grand. C'est ce qu'il a déclaré avant de mourir. Ça veut dire quoi cette phrase? Il dit, toute ma vie, je me suis rendu infiniment grand dans l'infiniment petit. C'est quoi? Toute ma vie, elle a créé quoi? L'atome. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'atome? On a tué des millions de Chinois et moi et moi et moi. Vous connaissez ce... Vous connaissez, là, je ne connais pas son nom, mais bon, en tout cas. Nagasaki, Hiroshima, des catastrophes terribles. Ils ont éradiqué une grande partie de la population, des civils, quelques bols de toutes sortes de ceux et tout ça. Il y avait des innocents parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là? Il dit, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait un atome. De cet atome est née la bombe atomique, et de cette bombe atomique, on a tué des vivants. C'est ça, c'est la Guadeloupe. Et il dit, j'aurais mieux fait de me rendre infiniment petit dans l'infiniment grand. C'est quoi infiniment petit dans l'infiniment grand, Rabotai? C'est la Torah Akdosha. Il dit, t'aurais été le dernier, t'aurais été à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards, Habibi. T'aurais été le patron du monde. T'aurais pu dire une parole, t'aurais pu ressusciter un gars. Tu vois, le gars, c'est un mort-vivant. Il ne fait pas la Torah, il ne fait pas les mitzvot, il est mort vivant, il n'a pas de vie, il n'a pas de Simchat Chaim. Rabotai, je vous défie de trouver des gens qui sont aussi heureux que les Talmidei Chachamim. Je vous dis, on est des grands maboules. Moi, je peux me rouler par terre. Parfois, j'étudie des textes de Torah, j'ai envie de grimper dans les arbres, d'embrasser le Rebbe, de me rouler par terre, de faire des trucs incroyables. Je vous dis, il n'y a pas une Simcha comme ça. Pourtant, je vous dis, j'étais président des associations et tout ça. Président européen là-bas des associations, tout le monde scandait mon nom dans la pelouse et tout ça. C'était des fous, les gens. Ils m'ont pris pour quelque chose. Alors que j'étais de la poussière et de la cendre, on m'a pris pour quelque chose. J'étais avec les ambassadeurs, avec les maires, avec les présidents. J'ai la photo. Je vous ai dit que j'avais la photo de Moshe Katsav dans mes toilettes. Je ne vous l'ai pas dit. C'est pas vous que j'ai dit, je crois que vous l'avez dit à vous. J'ai Moshe Katsav ou dans le meurtre et tout ça, des photos et tout ça. Pas avec lui dans les toilettes. Il y a des, dans les toilettes, il y a la photo avec lui, pas avec nous. Bon, je sais que ça me prête à confusion parfois, ça. De tout ce qui se passe en ce moment et tout ça, mais en tout cas, on ne sait pas. Vous savez. En tout cas, imaginez-vous, moi je vous ai dit, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai fait les championnats de France de judo, j'ai terrassé plein de gars, je leur ai mis des hippons, je les faisais passer par ici et par là, je leur faisais des planchettes japonaises, je m'allongeais, je faisais comme Ryu et Ken. Vous connaissez la différence entre Ryu et Ken? Ryu, tu lui fais une planchette japonaise, il lui fait comme ça, il le jette, mais Ken, il fait deux roulades en arrière et il le fait jeter. Je faisais toutes sortes de tactiques et tout ça. J'ai mis des reprises de volée incroyables dans la lucarne, des lobes du milieu de terrain. J'étais un marabout, j'avais le maillot de Franck Sauzet, tout ça, avec le numéro 8 de l'équipe de France du Cocorico. Après, je vous dis, j'ai fait mes études des droits internationaux, j'ai fait la maîtrise et tout ça, j'ai maîtrisé toute l'équipe là-bas et tout ça, alors que moi j'étudiais toute la journée la Torah et tout ça. Les gars, toute la journée, ils étaient là-bas, ils me disaient, ah, on vous voit plus à la bibliothèque et tout ça. Je dis parce que là-bas il y avait la mzroba de Christine, elle faisait tomber toujours ce stylo devant moi et ça, ça va bien. Je dis ça va bien, mais j'avais beaucoup mieux là-bas. Je vais aller me mettre là-bas et tout ça, il n'y a pas de contact entre nous, colle tout. Alors après j'étais avec des. J'ai trouvé la patente et tout ça, j'ai trouvé une combine avec eux. Je me suis fait ami avec des gens colorés. Comme ça il n'y avait plus de problème. Comment elle s'appelait Rachida, elle avait la Rasta de Rasta Rocket. Il y avait la sœur de Yannick Noah qui était avec moi aussi. C'était déjà, ça commençait même pas le problème avec eux. J'avais des problèmes avec les cours du Shabbat ou quoi. Je leur disais, viens ici et tout ça, faut moi transiter. C'est des bonnes amies à moi. Parfois, elles me tapaient sur les poils. Je leur dis, ça va et tout ça. Pas de problème et tout ça, il n'y a pas de souci et tout, parce que c'est pas l'autre Marboula qui venait se tromper. J'ai étudié là-bas. Je vous dis, j'ai fait des choses incroyables dans ma vie. J'ai fait les études là-bas, la maîtrise de droit international. On croyait qu'on était des grands. J'étais avec j'ai parlé devant 600 personnes dans des assemblées de où il y avait les patrons de l'ONU, des Marboulim, plein de choses. Rabotage, je vous dis, il n'y a pas une chose comme la simcha d'étudier la Torah Akdosha, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit et qui procure la plus grande joie qui soit dans le monde. Et c'est ce que ce marboule-là de Einstein, il a vu à la fin de sa vie. Il a dit, je me suis rendu infiniment, j'aurais dû me rendre infiniment petit dans l'infiniment grand. J'aurais dû être à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards. Il dit, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai tué des gens. J'aurais pu être quelqu'un, j'aurais pu ressusciter des gens. Rabotai, il t'a donné le sourire à quelqu'un, tu l'as réchauffé, tu l'as renforcé dans la Torah, dans les mitzvot, tu as donné un sens à sa vie. Tu lui as sauvé sa vie, Habibi. Dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba. Sans Torah, il n'y a pas d'Olam Hazé, Rabotai. Il n'y a pas d'Olam Hazé, il n'y a pas de respect entre un homme et sa femme sans la Torah. Il n'y a pas d'éducation des enfants sans la Torah. Il n'y a pas de Simchat Chaim sans la Torah. Il n'y a pas de sortie de l'esclavage de Wall Street 20h sur 24 sans la Torah. Il n'y a pas de sortie de que le gars il va se poser le Shabbat avec sa famille, avec les siens, il va chanter Kismera Shabbat, il va danser, il va être heureux et tout s'arrête. C'est le plus grand chef d'entreprise, le plus grand patron et tout ça, mais le Shabbat, il n'y a pas. Ça y est, maintenant on est avec Akadosh Baruch Hu, on est avec la famille. On resserre les liens, on est entre nous, on partage un moment privilégié. Rabotai, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, toi tes gars, ils sont capables de tuer des morts, moi ils sont capables de ressusciter des vivants. Rabotai, ressusciter des morts, pardon, ressusciter des vivants. Ressusciter des quoi? Des morts. Parfois je deviens fou aussi, ne vous inquiétez pas. Il dit, tu peux ressusciter un mort. Toi aussi tu peux ressusciter un mort, Habibi. Quelqu'un qui vit sans la Torah, il est un peu mort. Parce que c'est marqué, tant que toi tu es d'avouk avec Hachem Yitbarach, tu es attaché avec Hachem, tu es avec lui, tu es présent avec Akadosh Baruch Hu, tu vis avec lui, tu es avec lui, tu vis. Mais si tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, tu meurs. C'est une mort spirituelle. Cette mort spirituelle, elle te met dans une situation difficile. Donc la première des choses qu'ils ont voulu nous éradiquer, c'est Ahmar d'Amalek. Ouais, Ma'boul. Il a voulu nous tabasser sur la Torah, parce qu'il savait que si jamais on détache les bénis Israël de la Torah, on les détache de la vie. Amalek, il veut éradiquer le peuple d'Israël. La deuxième chose que l'Amalek, il a voulu nous taper, Rabotai, c'est quoi? C'est la foi. C'est marqué là-bas que Vayavo Amalek, il est venu Amalek et il nous a tapé dans les Nechashalim. C'est quoi des Nechashalim? Les Nechashalim, c'est des retardataires. C'est quoi des retardataires? C'est des gens qui étaient sortis d'Égypte et ils ont eu peur, donc ils sont restés en queue de peloton, ils ne sont pas allés à la tête, ils sont allés en queue. Pourquoi ils sont allés en queue? Parce qu'ils se sont dit, on a un petit peu peur et tout ça. Peut-être qu'il va falloir qu'on re-rentre en Égypte, parce que ça sent un peu le roussi qu'on va aller se mettre dans le désert sans avoir de quoi manger. Là-bas, il n'y a pas de shawarma, il n'y a pas de Mr. Freeze, il n'y a pas de breuvage et tout ça. On est dans une situation difficile et tout. Il dit, comment on va faire et tout? C'est difficile pour nous. Il dit donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va se mettre derrière. Et si ça sent le roussi, on prendra la poudre des escampettes, on va vite retourner en arrière et tout ça. C'est marqué qu'Amalek il est venu et qu'il a recruté ses soldats parmi les gens qui étaient à la queue, et c'est là qu'il les a pris, Rabotai. Et là, à ce moment-là, c'était terminé. C'était une situation qui était très difficile pour eux. Et il les a pris dans son armée. Donc on voit qu'Amalek, comment il attaque les Bnei Israël avec la Emouna. Ceux qui avaient la Emouna, Chazaka et le Bitachon Shalem à Kadosh Baruch Hu, ils ont marché à la tête, Amalek il n'a pas pu les toucher. Mais celui qui a la traîne et qui a un retardataire et qui n'a pas une confiance pleine et entière à Kadosh Baruch Hu, il ne pourra pas tenir à la fin des temps, parce que la fin des temps c'est une guerre de la Emouna. Et là, l'invasion, c'est marqué qu'Amalek il a tapé quand? Il a tapé quand les Bnei Israël ils ont fait des problèmes avec les poids et les mesures. Dès qu'ils ont commencé à tricher dans les poids et les mesures, Amalek il est venu, il les a attaqués. C'est quoi les poids et les mesures? Si quelqu'un il est capable de tricher avec les poids et les mesures et de rouler ses frères, c'est qu'il pense qu'Akadosh Baruch Hu c'est pas le dirigeant du business. Parce que si toi tu avais conscience qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui dirige le business, est-ce que tu crois que si tu voles ton frère, tu vas avoir une plus grande parnassa? Et si tu respectes pas la Torah, tu auras une grande parnassa. Si tu respectes la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que lui c'est le dispensateur de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions du monde, alors tu n'auras pas la bracha. Habibi, c'est de la démence, c'est de la folie. Il dit Amalek, il est venu, il les a attaqués. Ça, on voit que c'est en kécher avec la Emouna. Et pour terminer, mes chers frères, donc on voit qu'Amalek, il nous attaque sur ses deux pôles. Et nous, si jamais on veut se renforcer ce soir et sortir avec des armes, avec de la force, avec de la puissance, on doit se souvenir de cette chose-là. La garde du Shabbat, c'est l'expression de la foi que Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde, que c'est lui qui a créé le monde en six jours, qui s'est reposé le septième jour. Et le Shabbat, toi, tu dois venir et tu dois le faire partager à tous les frères du Ham Israël. Parce que c'est marqué que si jamais on respecte tous deux Shabbats, tout le monde entier, il arrive à respecter deux Shabbats, Akadosh Baruch Hu, à la Makom, il nous envoie le Mashiach. Il dit, comment, ça ne sert à rien de créer « We want Mashiach now » dans les rues et tout ça. Il dit, ça ne pourra pas t'aider. Si tu dis à ton frère, par contre, viens mon frère et tout ça, tu vas venir chez moi, je vais te montrer ce que c'est là, que Doucha et la Tara du Shabbat. Et ça, tu exprimes ta foi qu'il y a un créateur, qu'il y a un patron, que le monde il n'est pas être qu'il n'est pas laissé à l'abandon. Rabbi, à la Makom, tu es capable de ramener ce Mashiach sur place. Il dit, la guerre de la fin des temps, c'est marqué de Tzadik Bemunato Yichye. On sait que c'est le seul principe qui pourra nous permettre de surmonter la fin des temps. À la fin des temps, je vous avais dit, le Noam Elimelech, il dit qu'on va recevoir des coups. Ces coups-là, ils vont être infligés aux Bnei Israël et on va leur demander de choisir entre la vie et entre le fait de... Où tu vas... Chazvei Shalom, il peut y avoir un scénario comme ça. On va te dire, soit tu choisis de mourir juif, soit tu choisis de vivre chrétien. Ouais. À ce moment-là, Rabotai, qui c'est qui sera capable de dire, moi je suis capable de vivre, de mourir juif? Il dit, c'est très difficile. Comment tu es capable toi de donner ta neshama pour Akadosh Baruch Hu? Rabotai, tzadik bemunato yichye, le tzadik par sa foi il vivra. Si jamais toi... tu as été meilleur aujourd'hui que ce que tu étais la veille. Chaque jour, tu as essayé de te bonifier, de te purifier, d'étudier la Torah, de te renforcer dans ta foi, dans ton bitachon b'Hashem. Tu as essayé de te renforcer, de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et tu as vu combien c'était magnifique et beau de vivre avec Hashem Yitbarach, de vivre avec la Torah, d'être un Ben Meller, d'être un fils d'Hashem Yitbarach. Dis là, quand on va te dire, est-ce que tu es prêt à partir à Kiddush Hashem et ça? Il dit, moi, toute ma vie, j'ai vécu dans la vérité. Est-ce que tu veux que je meure dans le mensonge? Il dit, je suis convaincu que le Emet, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Je pourrais jamais le vendre, je pourrais jamais l'échanger. Parce que c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Mais si quelqu'un, Rabotai, toute sa vie, il a vécu dans le mensonge, est-ce qu'il sera prêt à mourir pour la vérité? Alors, Rabotai, Bezrat Hashem, qu'on soit méritant d'avoir la Geoula Shelema d'Akadosh Baruch Hu, qu'on chante Anachnu Maminim Bnei Maminim, Ve'en Lanu Almi Leishain Ela Avinu Shabashamayim, qu'on prenne conscience de la grande responsabilité qu'on a dans le fait de ramener le Mashiach, les filles avec la Tzniut, avec la Kdusha et la Tara. Il faut venir et consacrer un peu de temps au Limoud Torah, comme vous le faites à Merkaz Alimoud. Venir avec nous l'été, il y a des yeshivot, Rabotai, et des séminaires pour les filles. Vous pouvez venir passer quelques deux semaines, vous renforcer d'une façon extraordinaire, vivre la Torah de l'intérieur. Vivre avec des gens dans un olam où tu vois des lumières extraordinaires. Tu vois combien toi, t'es une petite goutte dans l'univers. Quand tu vois ces lampadaires et ces lumières extraordinaires, ces gdoshelion, ces tzadmidechami, ces tzadikim, tu vas là-bas à Bnebrak, tu vois ces gdolim avec lesquels on fait des voyages, on organise des voyages d'été, tout ça, on va découvrir un peu le pays, on se roule dans la neige, la terre, on fait des roulades dans la boue et tout ça, à la mer morte et tout ça, on fait des masques, et on étudie un peu la Torah le matin et tout ça, on se met bien le compte, et les filles aussi, il y a des choses. Donc si jamais moi je vais prendre vos mails à tous, je vous enverrai les programmes, vous nous rejoignez, Rabotai, tout celui qui consacre deux semaines, il amène et il hâte la venue du Mashiach, parce qu'à la fin des temps on va voir que le Beth Amikdash il va descendre avec des pierres. À l'entrée il n'y aura pas marqué tous les donateurs qu'il y aura. À l'entrée Rabotai, qu'est-ce qu'il y aura marqué? Il y aura marqué, voilà celui-là, c'est un homme qui était pauvre, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais regarde quel Messirut Nefesh il a fait. Au lieu d'aller là-bas dans les vacances avec à Ibiza sur les plages là-bas en train de danser et de montrer le doigt vers le ciel parce qu'il montre ce qui va lui arriver quand il arrive dans le ciel. Vous avez dit la blague déjà, ouais, il montre là ce qui va lui arriver. Il a dit, moi je consacre des semaines à Kadosh Baruch Hu, je viens étudier la Torah. Rabotai, celui qui est capable de faire ça, il amène la Geoula Shelema et Bezrat Hashem, on dansera tous à Yerushalayim.